Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste, directeur d'enseignement à l'Université de Toulon. Vous avez un jour déclaré que tout choix théorique est un aveu autobiographique. Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux héros ?
Parce que quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de héros autour de moi. C'était des héros nazis ou c'était des héros résistants français. C'était pas les mêmes. Ils étaient en guerre, ils s'entretuaient. Et j'avais des modèles identificatoires, c'est-à-dire c'était les héros résistants, ceux qui me sauvaient et que j'aimais et que j'admirais beaucoup.
Mais en fait, lorsqu'on lit le récit de votre vie, on a l'impression que le héros, c'est plutôt vous, c'est-à-dire un petit enfant orphelin qui réussit à se sauver pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que ses parents sont déportés. C'est plutôt dans votre existence qu'il y a quelque chose dès l'origine d'héroïque.
Alors le héros que vous venez de définir à l'instant, il est né seulement dans les années 80. Dans les années 40-45, j'étais pas un héros, j'étais une victime. C'est pas du tout pareil. Depuis les années 80, effectivement, on héroïse ceux qui arrivent à s'en sortir. Mais jusqu'à cette époque-là, les victimes, c'était des vaincus, c'était des blessés, on avait honte, on n'en parlait pas, on se cachait même. Le héros devait être un héros victorieux. Et c'est depuis les années 80 que la notion de héros, de victime-héros, a changé.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 pour que cette notion change ?
Probablement, vous avez changé. C'est-à-dire les médias. La manière de parler autour des victimes a changé la signification de la blessure. Auparavant, on se taisait. Et là, maintenant, la victoire des individus fait qu'ils s'en sortent, comme vous avez dit. Ils s'en sortent malgré la blessure. C'est un nouvel héroïsme qui vient de naître.
Bon, peut-être que nous, les médias, avons changé, mais vous aussi, Boris Cyrulnik, vous avez changé, puisque vous avez décidé de parler de votre histoire personnelle, alors qu'auparavant, vous n'en parliez pas.
Absolument. Pendant 40 ans, on m'a fait taire. Après la guerre, j'aurais bien voulu en raconter ce qui m'était arrivé. J'en parlais comme un enfant, spontanément. Pendant la guerre, si j'en avais parlé, je serais mort. Mais après la guerre, quand je racontais la disparition de ma famille, quand je racontais mon évasion, les gens riaient. Et c'est seulement...
Ils riaient, c'est-à-dire ?
Mais bien sûr, qu'est-ce que tu vas chercher là ? Beaucoup de gens qui ont été en psychanalyse, qui sont des survivants d'Auschwitz ou des camps de concentration, quand ils racontaient ce qui leur était arrivé, le psychanalyste lui-même écoutait et à la fin de la séance disait « Où allez-vous chercher tout ça ?» C'était impensable parce que c'était impensé par la culture. Et dans les années 80, probablement sous l'impulsion de Shoah, de Claude Lanzmann, probablement sous l'impulsion du procès Papon, les discours culturels ont changé. Et tout d'un coup, on s'est intéressé à ceux qui avaient été blessés et qui pourtant se remettaient à vivre suffisamment bien. Pas bien, mais suffisamment bien. Et à ce moment-là, on s'est intéressé, on leur a donné la parole, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a donné la parole dans les années 80. On m'a demandé enfin de m'expliquer. J'ai été ravi, bien sûr, de chercher à comprendre ce qui m'est arrivé 40 ans après le silence imposé par la culture.
Et alors justement, lorsque vous êtes transformé en héros, lorsque vous avez essayé de comprendre, Boris Cyrulnik, ce qui vous était arrivé, qu'est-ce que vous avez compris en tant qu'homme, en tant que psychiatre et psychanalyste ?
Eh bien, j'ai compris que je n'avais pas compris grand-chose. C'est-à-dire que ces phénomènes qui se passent sont des phénomènes psychosociaux auxquels on commence à peine à réfléchir. Comment des gens intelligents, la culture allemande était une belle culture germanique, c'était la plus avancée, la plus démocratique. Dans les années 30, il y avait la parité en Allemagne. Dans les années 30, il y avait vraiment une culture musicale, scientifique, artistique extraordinaire. 10 ans après... Tout le monde claquait des saluts hitlériens et se soumettait à des slogans. Comment expliquer un mystère pareil ? C'est-à-dire que les gens étaient soumis à un récit culturel fait de slogans, pas de pensées. L'union était faite par la répétition, en même temps, de véritables slogans publicitaires auxquels les gens se soumettaient. C'est volontairement, je souligne, se soumettaient. Ils se prenaient pour des héros vainqueurs, alors qu'en fait, c'était des soumis, des perroquets soumis à un slogan.
Comment explique-t-on cela, qu'il y ait des perroquets, comme vous dites, soumis à des slogans, alors qu'en réalité, c'est plutôt ce que vous décrivez, un processus de servitude volontaire.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La Boétie avait 18 ans quand il employait cette expression. La Boétie, l'ami de Montaigne, il avait 18 ans. Ce petit livre est absolument éblouissant. Comment ce gamin a-t-il pu comprendre un phénomène qu'on commence à peine à explorer aujourd'hui? C'est qu'il y a un plaisir dans la servitude. C'est que pour réfléchir et pour juger, il faut douter, il faut prendre du recul, il faut enquêter, il faut comparer une affirmation avec une autre, comparer une culture avec une autre, une religion avec une autre. C'est un travail. Et c'est pas enthousiasmant du tout. C'est un grand plaisir. Ce travail est un grand plaisir. Mais ça n'est pas l'enthousiasme qui nous emballe et qui nous soumet à une sorte d'émotion collective où on arrête de juger et on éprouve un orgasme collectif.
Et puis, je vous observais pendant les informations, il a été notamment question de la Syrie. En Syrie, aujourd'hui, ou ailleurs, on retrouve des scènes qui rappellent évidemment les périodes où l'humanité se fait particulièrement cruelle, ce qui montre qu'il y a en quelque sorte des permanences dans la nature humaine. Boris Cyrulnik.
Exactement. C'est-à-dire, c'est même des récidives, des répétitions du même processus. Depuis qu'on fait de l'histoire, en Occident, en France, il y a eu des processus analogues. Hein, l'Inquisition, le massacre des protestants, les Arméniens, le génocide arménien. Il y a eu et c'est toujours le même processus qui se répète. J'ai commencé ma vie avec un langage totalitaire en le subissant dans ma chair, dans ma famille, et j'arrive au dernier chapitre de mon existence avec la réapparition d'un autre langage totalitaire. C'est pas les mêmes mots, c'est pas la même culture, c'est exactement le même principe. Une réduction à quelques slogans qui nous aliènent, et avec bonheur, le bonheur dans la servitude dont vous avez parlé tout à l'heure. Et qu'il y a un avantage énorme à se laisser embarquer dans cette émotion qui nous empêche le raisonnement.
Votre dernier ouvrage parle des héros et des anti-héros. La France a été touchée par des anti-héros, par des terroristes. Là aussi, vous comprenez le fait de vouloir donner sa vie pour une cause nihiliste, une cause terrible pour essayer d'apporter l'apocalypse dans un endroit où règne la paix.
Alors ça, c'est caractéristique de la condition humaine. C'est-à-dire que si on était, vous et moi, dans une situation difficile, je partagerais mon pain, vous partageriez votre eau, même si on était ennemis. C'est-à-dire que on s'arrangerait pour s'adapter au réel. Or là, on s'adapte à l'idée qu'on se fait du réel. Et là, c'est pas négociable. Si j'ai une conviction, si j'ai une représentation que j'appartiens à la race supérieure et que vous êtes forcément de la race inférieure, je vais éprouver votre malheur ou votre disparition avec un grand plaisir. C'est-à-dire que, à ce moment-là, mon empathie s'est arrêtée. Je ne me mets pas à votre place. S'il s'agit de partager le pain ou l'eau, pour ne pas mourir, je le ferai. Et vous allez en conclure que je suis d'une générosité extraordinaire. S'il s'agit de partager une idée, il faut travailler, il faut respecter l'idée des autres, il faut élaborer, comme on dit en psychanalyse. Et à ce moment-là, il n'y en a qu'un seul qui a raison, c'est moi. Et si vous ne pensez pas comme moi, c'est que vous êtes un mécréant, vous êtes un blasphémateur, il est moral que je vous mette à mort.
Est-ce que c'est aussi clair pour le psychanalyste que vous êtes devenu, Boris Cyrulnik, qu'il y ait en quelque sorte des pulsions qui puissent inciter un individu à en tuer d'autres qu'il ne connaît pas, d'autres au nom d'idéologies finalement de plus en plus difficiles à cerner, comme celles par exemple qui aujourd'hui conduisent au djihad?
Alors oui, c'est difficile parce que c'est pas négociable, c'est pas élaborable. Il n'y a pas un travail d'idées, il n'y a pas une élaboration. C'est une croyance contre une autre. Et dans la croyance, il y a une seule représentation. Et cette représentation donne un grand bonheur et donne une grande cohérence. Elle est coupée du réel. C'est pour ça que dans mon livre, j'emploie souvent l'expression de délire logique. C'est délirer au sens étymologique. C'est sorti du sillon. Et pourtant, c'est cohérent, c'est logique.
Boris Cyrulnik, écoutez le témoignage de Leïla, une très jeune fille embrigadée sur les réseaux sociaux et rencontrée par Leïla Jitli pour Les Pieds sur Terre, un reportage diffusé sur France Culture le 20 mai 2015.
Un garçon, il est venu me parler sur Facebook, puis il m'a dit qu'il voulait se marier et tout, et puis je lui ai raconté que j'avais raté ma tentative pour venir, et en fait il m'a fait passer en Skype où on se voyait, et puis là il m'a expliqué comment venir et tout, et puis ensuite il m'a dit voilà, cherche une femme pour me marier. Enfin, il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. C'est ridicule. Non. Il avait les mêmes envies que moi, quoi. Combattre, il acceptait que je combatte. En dot, il allait me passer une calache. Enfin, moi, c'est tout ce que je rêvais, quoi. Ça peut être absurde, mais quand on est dedans, ben, ça me faisait rêver, en fait. C'est cette vie que je voulais. Je voulais combattre, mourir un martyr. Je voulais combattre sur le chemin d'Allah, faire le djihad, quoi. Pour mourir un martyr, pour la cause d'Allah. Pour défendre les Syriens, mais avant tout pour mourir un martyr.
Vous avez écouté beaucoup d'adolescents, et il y a toujours quelque chose de frappant lorsqu'on entend ces paroles, des paroles prononcées d'une voix assez douce, avec une pointe d'accent méridional, qui disent finalement des choses absolument atroces.
C'est la caractéristique de l'adolescence, c'est l'âge de l'engagement. Toutes les cultures ont inventé des rituels d'accueil des adolescents, sauf la nôtre. La culture moderne occidentale n'accueille plus les adolescents. En Afrique, en Asie, nous-mêmes en Occident, il y avait toujours un moment où on accueillait les adolescents. Tu as 12 ans, 13 ans, tais-toi, t'es un enfant. Je vais t'emmener dans la forêt, tu vas affronter les lions, mais tu ne seras pas abandonné. La culture va te dire les chants, les gestes, les mots magiques qui vont te permettre de triompher du lion. Tu as surmonté l'épreuve d'initiation, tu as été plus fort que la mort, tu as vaincu la mort. Maintenant, tu as 13-14 ans, tu es un homme, tu es un adulte, on t'écoute. Or, ce besoin d'initiation, les adolescents le cherchent et se le provoquent eux-mêmes. Et il n'y a rien de pire que l'absence d'événements dans une vie. On ne sait, on ne connaît notre identité que par les événements qui caractérisent l'histoire de notre biographie. Et un adolescent qui a pour seul événement de passer son bac, ça c'est une initiation tragique, hein, parce qu'elle dure un an ou deux, elle n'est faite que d'angoisse et d'immobilité physique. Et on voit par exemple, après tous les grands événements, beaucoup de gens regrettent ces événements exceptionnels. Après l'épopée napoléonienne, il y a eu une véritable dépression collective. Lisez Lamartine. Emportez-moi comme elle. Oh, emportez-moi comme elle, la feuille morte. Emportez-moi comme elle, orageuse Aquilon. J'ai besoin d'événements, j'ai besoin d'orages pour savoir qui je suis. J'ai besoin, moi, adolescent, j'ai besoin de me mettre à l'épreuve pour avoir la preuve de ce que je vaux. Et notre culture a complètement oublié ça. Ce qui fait la sélection aujourd'hui, c'est l'immobilité physique et la répétition de quelques règles de grammaire.
Mais alors, que faire en dehors d'instaurer à nouveau des campagnes napoléoniennes, ce qui ne va pas être extrêmement simple, Boris Cyrulnik?
Non, c'est peut-être pas la bonne solution, mais je crois que les pays d'Europe du Nord ont trouvé une initiation moderne. C'est-à-dire qu'après l'équivalent du bac, les jeunes font une année sabbatique. Ils ont 18 ans, et ils arrêtent de faire des études pendant un an ou deux. Ils sont entourés, comme les Africains entourés pour l'initiation, entourer les jeunes. Ils sont entourés, ils partent dans un pays étranger, souvent aux États-Unis, ils apprennent une langue, ils gagnent leur vie avec des petits métiers, et quand ils reviennent un an où ils ont été entourés, en cas de problème, il y a un système qui les protège, il y a la carte bleue des parents, et quand ils reviennent, ils ont appris une langue, ils ont fait un métier, ils sont fiers d'eux, ils sont devenus adultes, et à ce moment-là seulement, ils reprennent les études. Je me demande pourquoi on fait sprinter nos enfants. On les fait sprinter alors qu'aujourd'hui, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, plus d'une sur deux sera centenaire. Elle peut bien perdre un an ou deux quand même. Un an ou deux pour construire, muscler sa personnalité. On les fait sprinter et ensuite on les assoit derrière un ordinateur. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Les pays d'Europe du Nord, beaucoup de pays maintenant, inventent un processus d'initiation qui rend les adolescents fiers d'eux parce qu'ils ont triomphé d'une épreuve. C'est ce que voulait cette gamine, avec sa voix fraîche et sympathique. C'est une grande petite fille qui a une jolie voix, qui parle probablement en souriant. Eh bien, cette grande petite fille avait besoin d'avoir une calache, comme elle dit elle-même, pour se donner la preuve qu'elle était courageuse. Et notre culture, les privant de rituels d'initiation, ils vont chercher eux-mêmes des initiations stupides.
Boris Cyrulnik, on vous retrouve vers 8h15 pour continuer à évoquer notre culture, les questions d'identité, les questions posée au psychiatre que vous êtes face aux énigmes de la cruauté. On parlera également de la cruauté par rapport aux animaux, puisque c'est un thème qui a été également important pour vous. Et on parlera de votre dernier livre, Ivre paradis et bonheur héroïque, publié chez Odile Jacob, 7h55 sur France Culture.